Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Pourrait-on aujourd'hui se passer des images qui retransmettent en direct les épreuves des Jeux Olympiques ? Probablement pas. Et il fut un temps, pas si lointain, où les peintres furent les premiers témoins de la démocratisation du sport au XIXe siècle, un travail patient et absorbant. Et si aujourd'hui la caméra a remplacé les pinceaux, les chefs-d'œuvre impressionnistes subsistent. Monet, Caillebotte, Sisley et beaucoup d'autres se sont intéressés à la grande mutation sportive qui a traversé leur époque. Le musée Marmottan en a fait une exposition, Enjeux, les artistes et le sport, 1870-1930. À quelques mètres du Trocadéro et des foules en liesse, le musée nous donne à voir la façon dont le sport a été traité pendant la période impressionniste et post-impressionniste. Et pour en parler, nous sommes en compagnie du directeur du musée Marmottan Monet, Éric Demazière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition aux côtés de Bertrand Tillier, historien de l'art. Et j'en profite pour rappeler que vous êtes également membre de l'Académie des Beaux-Arts, installé dans la section gravure et dessin, puisque vous êtes également graveur. Un grand merci d'être à notre micro. Alors l'exposition retrace une partie de l'histoire visuelle du sport. Elle s'intitule Enjeux, les artistes et le sport 1870-1930. Pourquoi avoir choisi précisément ces bornes chronologiques ? Ça correspond au début de l'impressionnisme ?
Alors d'abord ça correspond un peu à l'ADN du musée, on va dire, qui traite beaucoup, comme vous le savez, de la période impressionniste. Mais ça a du sens pour ce qui est de l'histoire de la représentation du sport et même de l'histoire du sport tout court. Bon, les hommes et les femmes aussi ont eu depuis toujours des activités sportives. En témoigne la statuaire antique, par exemple, ou aussi les tournois, l'escrime, toutes les activités autour du cheval. Mais il est vrai qu'à partir de cette époque-là, disons la fin du Second Empire, on assiste à une mutation des activités sportives due à plusieurs raisons. D'abord, sans attendre, disons, les congés payés du Front populaire de 36, il y avait progressivement quand même une amélioration de la condition des travailleurs qui a fait qu'ils avaient plus de temps libre. Par conséquent, les gens ont été en mesure d'exercer des activités de plein air plus fréquemment à partir de ce moment-là. En plus, il y avait une grande anglomanie en France, hein, ça date de la monarchie de Juillet, puis du Second Empire. On était très, très admiratif de l'Angleterre, de sa façon de s'habiller, de son régime politique, et également aussi de cette activité sportive de sportsmen anglais, hein, qui pratiquaient, alors ça a commencé déjà à Oxford, Cambridge, l'aviron, la natation, les activités hippiques, un peu issues de la chasse à cours, la boxe aussi, qui était une activité très aristocratique au début. Et cette anglomanie a débordé en France et là a pris un côté plus démocratique. Et il se trouve que ça a coïncidé aussi à une période où les peintres sont allés bien davantage à l'extérieur. Pas seulement les impressionnistes, mais beaucoup les impressionnistes qui donc ont rencontré, si on peut dire, les activités sportives comme motif de leur peinture.
Et c'est ça qui est précisément très intéressant dans l'exposition, c'est qu'elle donne à voir une double révolution à la fois sportive et picturale. Au moment où le sport se démocratise, au même moment, les peintres vont sortir leur pot de peinture, leur chevalet.
Leur tube de peinture, justement.
Et ils vont être fascinés par cette nouvelle gestuelle moderne.
Absolument, ça renouvelait un peu le sujet. On s'est mis à voir Claude Monet peignant les régates d'Argenteuil, Caillebotte peignant des yachtmen, des gens qui faisaient la natation, Sisley également des régates, sans parler de gens un peu plus tard comme Signac, qui était aussi sportif. Parce qu'il y a aussi, l'exposition montre des artistes sportifs. Il y a des artistes qui ont pratiqué le sport, qui savaient de quoi ils parlaient, on va dire. Que ça soit Caillebotte, que ça soit Signac, hein, qui dans son journal d'ailleurs raconte, bon c'est un peu plus tard, mais il raconte qu'il va quand même en bicyclette de Mâcon à Saint-Tropez en 3 jours, et qui était aussi par ailleurs un grand fan de course, de voiliers. Il a eu de nombreux voiliers. Enfin, il y a eu comme ça un certain nombre d'artistes, même Toulouse-Lautrec, hein, qui était infirme, qui était tombé, etc. Mais avant de tomber, il était passionné de cheval, et il a continué à faire de la natation. Enfin, tous ces gens ont continué. Hickins, parce que nous montrons montrons aussi des tableaux qui ne sont pas des tableaux impressionnistes et qui ne sont pas des tableaux français.
Un grand peintre américain,
Eakins, qui est un peintre qui est une célébrité aux États-Unis, au même titre que Monet en France, hein, et qui a été un grand champion d'aviron et aussi qui s'est beaucoup intéressé à la natation, qui s'est intéressé aussi à la lutte, et aussi quelqu'un qui s'appelle George Bellows, également une gloire aux États-Unis, beaucoup moins connue en France, en tout cas du grand public, qui lui a décrit par exemple des matchs de boxe qui sont des très célèbres peintures aux États-Unis. On a la chance d'avoir un magnifique tableau de Bellows qui vient de la National Gallery de Washington.
Qui représente
les deux boxeurs, avec aussi ce côté populaire. Hein, la boxe qui était aristocratique en Angleterre est devenue un sport extraordinairement populaire. Il y a eu aux États-Unis dans les années 20, par exemple, le match Dempsey Carpentier dans les années 25, etc. Il y avait presque 100 000 personnes. C'était d'ailleurs à l'extérieur que ça se passait. On avait construit une espèce de ring en plein air. Enfin, ça a été des activités très populaires dont les artistes se sont emparés.
Et vous faites d'ailleurs une analogie intéressante. Alors, pas vous, mais l'exposition démarre avec une analogie entre le sportif et l'artiste. Puisque au début de l'impressionnisme, la peinture a été un peu un sport de combat pour les peintres, et il a fallu s'imposer, c'était pas gagné.
Alors on peut dire ça, c'est vrai que les impressionnistes, on fête l'anniversaire de le 150e anniversaire de la première exposition de ce qui deviendra, à partir de cette exposition, le groupe impressionniste, hein, 1874, qui avait lieu chez Nada, et ces peintres, effectivement, se colletaient à la peinture, on va dire, et la pratiquaient d'une manière très physique, hein, et donc il y a aussi cette coïncidence de ces deux états.
Alors je reviens au tout début du mouvement des premières peintures impressionnistes qui vont mettre en scène des sportifs. Les sportives viendront un petit peu plus tard sur la toile. Ce sont d'abord, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, des sports très aristocratiques qui sont représentés, l'aviron, la course équestre. On peut citer un tableau de Degas, Degas et la course des gentlemen qui
ouvre un peu l'exposition, qui est un très beau tableau qui date de 1868, je crois, et qui a été ensuite, Degas l'a...
Si vous voulez le décrire.
Alors, il est de 1862, mais en fait, Degas l'a repris 20 ans plus tard, et le fond est rajouté plus tard. Il y a une cheminée d'usine, etc., qui n'était pas dans le tableau au départ. C'est avant le départ, c'est-à-dire que Degas est un merveilleux observateur. Il a été très amateur de spectacles hippiques. Il y allait avec Manet. Enfin, il a beaucoup fréquenté les champs de course, comme aussi les salles de spectacle. Et Degas a représenté plutôt la course avant et après, pas tellement pendant. D'ailleurs, pendant, il y a eu longtemps un problème, c'est que on ne voyait pas vraiment la position des pattes des chevaux quand ils couraient. Et d'ailleurs, ils ont été représentés d'une manière très imparfaite jusqu'à la photographie, hein, la chronophotographie même, qui a permis de décomposer le mouvement des chevaux, ce qu'on appelait le galop volant, c'est-à-dire que des gens qui étaient des très bons observateurs, comme Stubbs, comme Géricault, représentaient les chevaux les deux jambes en avant et les deux jambes en arrière, qu'on appelait ça le galop volant. Et puis, quand on a inventé la chronophotographie, on s'est aperçu que ça ne se passait pas du tout comme ça. Mais Degas disait, écoutez, les artistes ont le droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de continuer à représenter le galop volant, nous continuons à le représenter. Néanmoins, Degas s'est intéressé pour la vision esthétique aussi du champ de course, c'est-à-dire les casaques très colorés, la foule, etc. Il a été, en revanche, très juste, mais nous n'en avons pas d'exemple dans l'exposition, il a été très juste dans les sculptures de chevaux. Degas a pratiqué la sculpture et a fait des sculptures des chevaux, des modelages. Et là, on voit bien qu'il est influencé par cette chronophotographie, qu'il en tient compte et qu'il représente les chevaux comme ils courent correctement.
On reparlera de la photographie à la fin de l'entretien, mais vous disiez qu'effectivement, tous ces sports aristocratiques sont bien représentés au début du mouvement. À partir de quand le sport dans la peinture va commencer à se démocratiser? Est-ce qu'il y a une date, un moment précis?
Non, ça s'est fait très progressivement. Déjà, c'était déjà quand même le cas avant la guerre de 14. C'est intéressant de voir, par exemple, que les sports hippiques étaient peut-être aristocratiques pour ce qui est de ceux qui les pratiquaient, mais populaires pour ceux qui les regardaient. On a construit les premiers hippodromes dans les années 60, que ce soit Chantilly, que ce soit Longchamp, que ce soit Vincennes. Ces hippodromes étaient immenses et attiraient une foule qui n'était pas seulement bourgeoise, aristocratique, il y avait déjà les paris, etc., même si les propriétaires, eux, étaient des gens fortunés. Ça n'était pas le cas des jockeys qui ont été des vedettes, mais qui étaient des gens parfois de conditions modestes, tout comme d'ailleurs les cyclistes ou les boxeurs. La boxe a été un sport qui a été un vecteur d'ascension sociale. Il y a eu des grandes stars de la boxe américaine, par exemple, qui étaient vraiment des gens, parfois des descendants d'esclaves, par exemple, qui sont devenus des très, très grandes gloires dans le monde sportif.
Et d'ailleurs, au sujet de la boxe, il y a une magnifique gravure qui est aussi exposée. Alors, j'en parle parce que vous êtes également graveur, une gravure qui représente deux boxeurs, un boxeur blanc, un boxeur noir.
Alors, de Théodore Géricault, alors qui est un peu avant d'ailleurs la période qui nous intéresse, qui annonce la période, elle est du début des années, je crois, 1818, quelque chose comme ça. C'est un très fameux combat, alors je n'ai pas le nom des protagonistes. Il y a quelqu'un qui est de la Royal Navy, un Anglais, un Britannique, et un noir, descendant d'esclaves. Ça sera un fameux match qui se passera en 1811 en Angleterre, et il y avait en 30 rounds, vous imaginez un peu la violence du match, et à chaque fois ça sera l'homme de la Royal Navy qui gagnera, mais ce match a eu un très grand retentissement. Géricault n'a certainement pas assisté au match, mais ça avait pris un côté tellement symbolique, tout comme d'ailleurs le radeau de la Méduse plus tard, qu'il peindra aussi sans avoir assisté à l'événement, bien sûr. Et dans les deux cas, il se saisit de cet événement emblématique qui a été représenté pas seulement par Géricault, d'ailleurs, les caricaturistes anglais, etc. Quelqu'un qui s'appelle Chris Banks, par exemple, qui est un très célèbre caricaturiste et graveur anglais, l'avait représenté avant Géricault. C'est vrai que c'est très emblématique d'un sport qui, d'aristocratique, touche le très grand public et touche le peuple même de deux continents.
Est-ce qu'on peut y lire un message politique derrière cette gravure? Est-ce que Géricault souhaitait montrer quelque chose en particulier?
Alors, je ne sais pas. C'est possible. Géricault est un homme qui a... Je ne pense pas. Je pense qu'il était... D'ailleurs, l'arrière-plan de cette lithographie, c'est aussi une lithographie, c'est-à-dire un mode d'expression qui concerne l'estampe, mais qui était très récent, qui a été inventé à l'extrême fin du 18e siècle. Alors, ça avait 20 ans d'existence. Il était un peu un pionnier de ce médium. Et je pense que c'était Géricault a beaucoup représenté comme ça, des combats, notamment des courses de chevaux antiques, etc. Et c'est ça qui l'a intéressé, je pense, plus que de faire passer un message politique, même si on a dit que le radeau de la Méduse avait été peint avec une arrière-pensée politique. On voit aussi des noirs dans le radeau de la Méduse. C'est aussi un tableau comme ça, qui est à une période charnière de l'histoire politique de la France.
Alors, parmi ces sports populaires, on vient de parler de la boxe, il y a le vélo, vous l'avez cité tout à l'heure, avec un tableau qui est aussi affiché dans cette exposition au Vélodrome de Jean
Metzinger. Jean Metzinger, alors c'est peut-être un de mes tableaux préférés de l'exposition.
Oui, qu'est-ce qu'il y a de remarquable?
Alors, c'est un tableau qui juste avant la guerre de 14, 1912, qui représente d'ailleurs un coureur de Roubaix. C'est l'arrivée du Paris-Roubaix, une course qui existe toujours, d'ailleurs qui vient d'avoir lieu il y a quelques semaines, qu'on appelle l'Enfer du Nord. Et ce tableau est très intéressant. C'est d'ailleurs un prêt magnifique de la Fondation Guggenheim à Venise. C'est un tableau qui est à la fois post-cubiste, on va dire, ou cubiste, et futuriste, c'est-à-dire qu'il y a des éléments du futurisme, ce côté décomposition du mouvement, ce côté transparence, et en plus ce côté des volumes comme ça, qui sont comme des tubes. On voit à travers le coureur, on voit le stade derrière. C'est un tableau avec en plus des matériaux, il y a du sable, il y a du collage. C'est un tableau très très moderne, magnifique, de ce Jean Metzinger, qui a été un peintre qui n'est pas de tout premier plan, mais quand même un très très bon peintre français, donc qui est mort après la guerre, largement après la guerre de 40, en 56, je crois.
Le tableau cherche à traduire au spectateur ce que le cycliste éprouve durant sa performance. C'est ce qu'on nous explique lors de l'exposition, dans les commentaires.
Non, mais c'est tout à fait vrai. Hein. C'est un tableau très spectaculaire, un grand tableau qui fait presque 1,30 m par 1 m. Hein. Un tableau très, très, très impressionnant et très typique de cette période charnière entre le cubisme et le futurisme.
Alors, nous n'avons pas encore parlé des femmes et pourtant, plusieurs figures féminines sont à l'honneur dans cette exposition. Des sportives, d'abord. On découvre ou redécouvre des figures importantes comme Alice Milia, qui fut une grande nageuse, qui a beaucoup œuvré pour le développement du sport féminin. Et d'ailleurs, c'est elle qui a imposé la présence des femmes aux Jeux Olympiques, qui n'était pas
attendue. C'est une exposition qui ne parle pas tellement des Jeux Olympiques. Hein. D'abord, 1870, il n'existait pas encore. Et puis, on aurait pu scander l'exposition avec des dates importantes. C'est vrai que 2024, il y a les Jeux Olympiques à Paris. C'est le 100e anniversaire des Jeux Olympiques de 1924. On s'est plutôt attaché à cette évolution au long terme où les Jeux Olympiques ont eu, bien évidemment, les Jeux Olympiques ont amplifié le mouvement. Hein. C'est sûr que cette création ou recréation du baron de Coubertin, alors qu'il n'était pas vis-à-vis des femmes, il avait quand même une attitude assez... c'est pas un grand féministe. Il disait que je dis en substance que les femmes étaient là pour couronner les vainqueurs. Cela dit, il a eu des grandes qualités par ailleurs, notamment d'avoir fait renaître cet extraordinaire événement. Mais les femmes se sont imposées par elles-mêmes progressivement. Alice Milia, par exemple. Et il y a aussi... L'exposition représente des femmes en train d'avoir des activités sportives. Le plus extraordinaire tableau est peut-être le tableau de Courbet, représentant une femme qui fait du podoscaf, une espèce de pédalo sans pédale. On est assis sur une espèce d'esquif avec deux flotteurs, comme un pédalo, et avec une rame, on rame des deux côtés. Bon, ce tableau est très étonnant, très, très atypique, un tableau que Courbet a peint quand il séjournait sur la côte de la Manche, dans le pays de Caux, avant la guerre de 70. Et cette activité n'a pas survécu. En tout cas, c'est peut-être transformé en pédalo, je ne sais pas. Mais ce tableau, en tout cas, esthétiquement, est magnifique. Il y a aussi un très beau tableau, une paire de tableaux de Maurice Denis, qui nous a été prêté par le Musée national du sport, représentant des femmes. Alors, c'est plutôt de l'ordre de la chorégraphie que du sport, on va dire, de deux femmes, comme ça, qui jouent du tennis. Il y a aussi un très joli tableau de Louise Abema, qui représente des femmes qui jouent du croquet. Vous savez, Louise Abema est une excellente peintre, qui était la compagne de Sarah Bernhardt, d'ailleurs. Et ce tableau montre une partie de croquet dans les années 70 du 19e, qui se passe, je crois, je ne sais plus si c'est Trouville, ou le Tréport, sur la côte normande.
Et donc, on parle de démocratisation, on peut même parler de massification du sport, qui devient un spectacle à ciel ouvert. Alors, même si l'exposition ne traite pas directement des Jeux Olympiques modernes, les premiers JO recommencent en 1896. Et c'est aussi le moment pour les peintres de bien représenter les foules. On n'a pas parlé, alors aussi, on l'a évoqué très rapidement, deux peintres américains, Eakins et George Bellows.
George Bellows qui montre des foules. Il y a des photographies qui montrent des foules extraordinaires pour les matchs de boxe. Je voudrais aussi parler du tableau qui est d'ailleurs l'affiche de l'exposition, de Ferdinand Geldry, qui est un artiste qui a été vraiment un très intéressant artiste qui mériterait d'être mieux connu parce qu'il a représenté beaucoup d'activités sportives. Il était lui-même beaucoup praticien de l'aviron, mais il a aussi peint des scènes dans les usines et également des scènes pendant la guerre de 14 dans les tranchées à Verdun. Et ce Ferdinand Geldry montre justement un tableau qui est l'affiche de l'exposition, un match sur la Marne avec une foule énorme sur un pont, un viaduc métallique qui traverse la Marne et qui regarde l'arrivée d'une course d'aviron entre le Rowing Club et la Société Nautique de la Marne. Un tableau de 1883, donc c'est vraiment les débuts du phénomène. On est vraiment avant la guerre de 14. Il faut dire aussi qu'il y a aussi quelque chose qui a été important, c'est qu'après cette défaite de 70, il y avait cette anglomanie, mais il y a eu aussi l'idée de la revanche contre l'Allemagne qui a fait que tout ce qui est monde scolaire, universitaire, militaire, était soucieux de former les garçons, et plutôt les garçons, à être vigoureux pour être des bons soldats plus tard. Et ça a beaucoup encouragé les activités sportives populaire collective.
Et c'est le moment également des premiers tirages grand public des magazines. Alors, jusqu'alors, on a beaucoup parlé de tableaux, mais l'exposition met en valeur également des sculptures. Et puis, à la fin du parcours, vous affichez également des couvertures de magazines, les tout premiers journaux consacrés au sport. Et on tombe notamment sur l'ancêtre de l'équipe La vie au grand air.
La vie au grand air, qui a été un journal magnifique, magnifique d'ailleurs par sa maquette. Quand on voit les couvertures de la vie au grand air, certaines pourraient être faites aujourd'hui. Elles sont extraordinairement... Alors, il y a un usage du collage, du mélange de la photographie et du dessin, même de la couleur. Et La vie au grand air a été un magazine, une publication qui a eu une très, très grande importance et qui a fait... Il y avait des couvertures avec des champions, même des champions étrangers. Et on conclut un peu l'exposition avec cette... une série de couvertures de La vie au grand air. Il faut dire que cette exposition, nous avons eu des prêts magnifiques d'un certain nombre d'institutions, que ce soit la National Gallery de Washington, le musée d'Orsay, le musée national du sport, l'INSEP, l'Institut national de la performance qui est dans le, et du sport qui est dans le bois de Vincennes, qui est un endroit, une espèce de laboratoire pour les champions. Donc toutes ces institutions, sans parler de musées en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Tchécoslovaquie, on a eu de très nombreux prêts, non seulement peinture, gravure. Il y a un artiste aussi qui s'est illustré pour la représentation de la boxe, c'est Dunoyer de Segonzac, un artiste un peu moins connu maintenant, qui a été très connu et qui a été un excellent observateur des matchs de boxe dans les petites salles de boxe à Paris, comme ça. Il raconte qu'il allait, avec sa plaque de cuivre, croquer les petits matchs amateurs où la maman soutenait son fils en disant « Allez, tue-le, vas-y !» Et donc, on est content de pouvoir montrer aussi beaucoup d'affiches. Hein. Le sport, c'est aussi, ça coïncide aussi avec l'âge d'or de l'affiche, en fait. Notamment, évidemment, Toulouse-Lautrec, qui a représenté des courses de chevaux en lithographie et aussi qui a fait des affiches publicitaires hein, pour des marques, par exemple, de chaînes de vélo. Il y a une fameuse affiche qui se trouve à la fin de l'exposition. Et à propos de cyclisme aussi, on montre la seule statue représentant un homme de Mayol, Aristide Mayol, qui représente un cycliste, hein, qu'on appelait le Petit Colin, qui était un ami d'un grand collectionneur qui s'appelait Kessler, qui était un Allemand, ami de Mayol. Et Mayol a représenté ce jeune athlète, qui était aussi jockey d'ailleurs. Et cette sculpture est très rare. Mayol, sinon, a représenté des hommes, parfois dans des bas-reliefs avec une femme. Mais la seule représentation d'un homme par Aristide Mayol, un très grand artiste.
Vous avez rassemblé au total 160 œuvres pour cette exposition. Est-ce que vous en avez une préférée ?
Alors, j'aime beaucoup le tableau de Médecin G.
Qui
est à la fois... d'abord, l'événement, c'est montrer l'arrivée du Paris-Roubaix. Je trouve ça émouvant, surtout que c'est la seule fois que ça a été gagné par un natif de Roubaix. Et puis, c'est un tableau très moderne, très emblématique, à la fois donc, d'une activité sportive nouvelle qui devient populaire et du développement moderne de la peinture. Il y a vraiment là le parallélisme entre le sport qui devient une activité à laquelle tout le monde s'intéresse et la peinture qui explore des champs nouveaux à travers ces nouveaux sujets.
Un mot pour terminer sur le musée Marmottan. Marmottan Monet, Éric de Mazières, c'est un musée où on retrouve bien sûr beaucoup d'œuvres impressionnistes de la collection de Claude Monet. Il est situé dans le 16e arrondissement de Paris, dans le cœur, dans l'un des cœurs battants des Jeux Olympiques. Il était quelques mètres, je le disais, dans l'introduction du Trocadéro, de Roland-Garros.
Il n'est pas très loin de Roland-Garros, en effet.
Du Parc des Princes.
Des
lieux qui ont une résonance toute particulière en ce moment, aujourd'hui. C'est une belle invitation aussi que vous faites aux spectateurs des JO à faire une pause dans ce tumulte sportif. Tout le monde est invité, les touristes autant que les Parisiens.
Bien sûr, c'est un musée qui reçoit énormément de touristes à cause de son fonds impressionniste exceptionnel. C'est la plus grande collection de Claude Monet hein, dans une institution publique et la plus grande collection également de Berthe Morisot dans une institution publique. Donc ceci fait venir beaucoup de monde. C'est un musée qui n'est pas très grand, qui va être rénové d'ailleurs parce que les collections multiples se sont accumulées depuis ça. On fête d'ailleurs les 90 ans de son ouverture au mois de juin prochain. Le musée avait ouvert le 21 juin 1934, donc ça fera 90 ans le 21 juin prochain. Un musée qui était donc la maison est donnée par Paul Marmottan, qui n'avait rien à voir avec l'impressionnisme, hein, qui était un collectionneur de l'époque Empire, mais il se trouve que des donations successives, que ça soit d'abord la famille, enfin une dame d'ailleurs, Madame Denoble de Monchy, qui a donné juste avant la guerre, hein, en 1940, en mai 40, vous imaginez, a donné le tableau Impression Soleil Levant, qui est devenu l'icône du mouvement impressionniste, que nous prêtons d'ailleurs actuellement
au musée
d'Orsay pour l'exposition Lyon, qui est une reconstitution de cette première exposition impressionniste qui avait lieu dans l'atelier de Nadar, hein, boulevard des Capucines. Donc ce musée a vocation à son problème, en fait, c'est qu'il y a des collections très disparates. Hein. Il y a Paul Marmottan, il y avait Jules Marmottan, d'ailleurs son père, qui collectionnait plutôt la période 16e, 15e. Ensuite, il y a eu Paul, la période Empire. Ensuite, il y a eu Madame Denob de Monchy, qui a donné un très bel ensemble de tableaux impressionnistes, dont Impressionniste Soleil Levant. Ensuite, en 1966, il y a eu la donation Michel Monet, le fils unique, l'unique fils survivant de Claude Monet, qui a donné tout ce qui lui restait de son père, plus d'une centaine d'œuvres de son père, plus la collection de son père. Claude Monet a eu une très longue carrière. Il a fait beaucoup d'échanges comme ça avec ses consoeurs, confrères, ses amis. En plus, il y a eu la donation Wildenstein dans l'Uminure médiévale. Il y a eu la donation Roire relative à Berthe Morisot. Donc tout ceci fait un ensemble disparate, riche, mais extrêmement riche, qui fait que ce musée est petit, certes, mais vraiment une collection exceptionnelle.
Un grand merci, Éric de Mazières. Donc, je rappelle, vous êtes commissaire de l'exposition Enjeux, les artistes et le sport 1870-1930 à découvrir au musée Marmottan, Monet, jusqu'au 1er septembre prochain. Donc, vous avez tout l'été pour y aller, entre un match de polo, une épreuve de basket, courez-y. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je voudrais ajouter une chose, c'est que alors, j'étais pas le seul commissaire. Hein, il y avait Bertrand Tillier, oui, qui est professeur à Sorbonne, qui était également commissaire.
Et
commissaire associé Aurélie Gavoil, qui est assistante de conservation au musée Marmottan Monet. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Canal Académie.